Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est lundi, c'est reparti, mais on est ensemble jusqu'à 9h sur RMC, soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 15 juin, très bon début de semaine, 6h58, après quasiment 4 mois de combat, la fin de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, un accord a été signé cette nuit entre les deux ennemis. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous en France? Le cours du pétrole à la baisse dès ce matin, le détroit d'Hormuz qui doit rouvrir, le général Jérôme Pélisserandi sera mon invité à 7h40 pour tout comprendre. Prendre à cet accord. Le face-à-face, l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Gabriel Attal, sera mon invité ce matin. D'ailleurs, évidemment, première question sur cet accord. Il a vocation, dit-il, à être président de la République. Eh bien, quelle serait sa position sur cet accord? L'Américain Donald Trump, qui d'ailleurs devrait se rendre en France et décoller des États-Unis autour de 8h30 heure française. Et puis Gabriel Attal, j'interrogerai évidemment sur les suites des défaillances de l'État dans l'affaire Liana et de la responsabilité de l'État. Le principe aussi de casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Ça, c'était ce que disait Gabriel Attal. Eh bien, figurez-vous que Sébastien Lecornu veut le rendre possible. Il l'a annoncé hier soir. Rendez-vous donc à 8h30 avec Gabriel Attal. Et puis, est-ce qu'une prime de match, ça vous intéresse? N'oubliez pas, RMC vous fait gagner 30 000 euros et rajoute 500 euros à chaque but marqué dans ces matchs de la Coupe du Monde. Ça fait déjà 49 000 euros dans la cagnotte. Soyez bien à l'écoute. Il y aura une alerte qui peut tomber à tout moment d'ici 9h. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine de Maurice, c'est beaucoup de soleil et de chaleur.
Ouais, la chaleur, on n'a pas fini d'en parler cette semaine. C'est vraiment que le début. Là, déjà ce matin, les températures ont bien grimpé sur le sud-ouest. On a dépassé les 20 degrés. Cet après-midi, on attend jusqu'à 35 degrés à Montpellier, Perpignan, 34 à Bordeaux, 33 à Nantes ou La Rochelle. Il fera 30 à Paris, à Lyon, 28 à Marseille. On aura 21 en revanche à Lille. Avec, oui, beaucoup de soleil. On a de la grisaille quand même parfois près des côtes, Bretonne, Aquitaine ou de la Méditerranée. Mais sinon, c'est bel et bien le soleil qui domine et la chaleur qui va s'accentuer. À partir de mercredi, on devrait vraiment rentrer en canicule. Il fera souvent entre 32 et 36 degrés sur le pays. Jeudi, on attend jusqu'à 38 à Bordeaux, 37 à Lyon ou encore 36 à Paris.
Il est 7h. Très bon réveil, très bon lundi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un accord de paix finalement trouvé entre l'Iran et les États-Unis. On vous le détaille dans ce journal. Le G7 débute à Évian aujourd'hui à la frontière suisse. De quoi chambouler le quotidien des habitants. RMC est sur place. Et puis nos toutes dernières infos sur la composition des Bleus, la veille de leur entrée en lice en Coupe du Monde face au Sénégal.
Plus de 3 mois et demi après le début de la guerre, un accord de paix enfin trouvé entre les États-Unis et l'Iran.
J'autorise la levée immédiate du blocus naval. Déclaration hier de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social qui confirme l'annonce du médiateur pakistanais. Romain Cluzel du service politique de RMC, vous êtes en plateau avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce que cet accord contient?
Eh bien, les Iraniens et les Américains assurent qu'ils mettent fin à toutes les opérations militaires, y compris au Liban. Cet accord, il permet d'envisager la réouverture du détroit d'Hormuz fermé depuis le début du conflit le 28 février dernier. Un détroit essentiel pour l'économie iranienne et pour l'approvisionnement en pétrole d'une grande partie du monde. Le passage des bateaux reste à sécuriser, mais Donald Trump annonce d'ores et déjà une réouverture pleine du détroit, sans droit de passage. Sur son réseau social, il ajoute que le pétrole coule à flot avant même la signature de l'accord prévu vendredi. Selon l'agence de presse iranienne MER, les Américains ont accepté de dégeler jusqu'à 24 milliards de dollars d'avoir iranien, mais plusieurs sujet reste toujours en suspens et désormais une période de négociation de 60 jours s'ouvre pour tenter de trouver un accord définitif. Téhéran réclame la levée de certaines sanctions internationales, mais c'est surtout le programme nucléaire iranien qui sera au cœur des discussions. Le président des États-Unis évoque un moratoire qui empêcherait l'enrichissement d'uranium par l'Iran pendant 15 à 20 ans.
Et vous l'évoquez, Romain, cet arrêt immédiat des opérations militaires, y compris au Liban. La question maintenant, c'est est-ce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va respecter lui aussi cet accord? On a demandé à Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques.
C'est le sens global de l'histoire et c'est le mouvement de parvenir à un accord pour l'intérêt des deux belligérants, mais également des pays de la région et de la communauté internationale. Je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fasse déraper les choses. En tout cas, il est clair qu'il faudra que Donald Trump contienne son partenaire Benjamin Netanyahou, parce que les deux n'avaient pas du tout la même stratégie du côté de Benjamin Netanyahou. Cette obsession de la destruction de la République islamique et de ses proxys semble clairement montrer au bout de 100 jours que tout ça est impossible. Donc à un moment, comme dit le proverbe, il faut savoir terminer une guerre.
Et ne manquez pas à 7h40 sur RMC, le général Pélis Randy. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous? Réponse donc à 7h40.
Un accord qui sera évidemment aussi au cœur des échanges au G7, où Donald Trump doit atterrir cet après-midi et s'entretenir avec Emmanuel Macron. Le sommet des puissances mondiales débute aujourd'hui à Évian, à la frontière suisse, jusqu'à mercredi. Évian, c'est moins de 10 000 habitants en temps normal. Alors vous l'imaginez, la commune est transformée. Le reportage de Rachel Sadodine, l'envoyée spéciale sur place de RMC.
Sur les bords du lac, d'habitude noir de monde, les promeneurs sont rares, mais ils ont de la compagnie.
C'est un beau rassemblement d'hélicoptères. Il y a deux de l'armée et puis trois de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre patrouillent aussi en bateau sur le lac et ça n'arrange pas du tout Nadia.
Moi, je voulais me baigner parce qu'il fait chaud, mais les policiers nous ont dit qu'on n'avait pas le droit à la baignade.
La jeune fille de 14 ans suit à grosses gouttes sous sa casquette. Malgré tout, elle s'estime chanceuse. Sa sœur, en terminale au lycée, va devoir aller passer l'épreuve de philosophie du bac à Thonon-les-Bains ce matin dans un bus escorté par les forces de l'ordre car le périmètre est bouclé. Pour circuler, les riverains doivent présenter un laisser passer comme celui de Cédric.
Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, puis avec un QR code, quoi. Touche de contrôle, on est obligé de le montrer. On peut plus trop vivre.
Résultat, impossible pour les touristes d'entrer dans Évian. Les terrasses des cafés sont quasi vides. Seulement 3 personnes attablées au bistrot de Françoise.
Depuis 3 jours, c'est cata.
Et ça se ressent sur le chiffre d'affaires?
Ah oui, bien sûr, bah oui. Moins 50, moins 70%. Donc, on sait qu'on est patron et qu'on n'a pas de salariés, quoi.
Optimiste, la restauratrice appelle les forces de l'ordre et les membres des délégations officielles à venir déjeuner chez elle pendant le G7.
Un sommet où sera aussi évoquée la guerre en Ukraine, alors que plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été bombardées cette nuit par la Russie. On compte au moins 9 morts ce matin à Kiev et à Kharkiv.
7h05 sur RMC, on parle maintenant de ce projet de loi pour durcir les sanctions contre les casseurs.
Annoncière du Premier ministre Sébastien Lecornu qui va envoyer ce texte dans les prochains jours au Conseil d'État. Romain Houck, c'est un projet de loi préparé en 2 semaines après les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions.
Oui, Sébastien Lecornu veut afficher sa fermeté. Lorsqu'on participe à une violence collective, on doit en assumer individuellement les conséquences, explique-t-il. Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Et vous vous souvenez du fameux « tu casses, tu payes » de Gabriel Attal? Eh bien, c'est justement Gabriel Attal qui sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face et il réagira notamment à cette annonce de Sébastien Lecornu.
Et ce matin, c'est l'épreuve du bac de philosophie. 530 000 élèves de terminale attendus dans 1 heure. Avec cette année, une attention particulière à la maîtrise de la langue. C'est ce que martèle le ministre de l'Éducation depuis plusieurs semaines. Dans le Loiret, l'usine Duralex se met en pause après l'annonce du redressement judiciaire début juin. La verrerie installée à côté d'Orléans arrête ses fours pour 2 semaines. Le but, protéger la trésorerie et baisser ses charges. Seuls 2 salariés sur 17 resteront pour faire tourner l'usine qui affronte son 5e redressement judiciaire en 20 ans. C'est un chiffre RMC qu'on vous dévoile ce matin. Plus de 500 permis suspendus depuis le 1er janvier pour l'usage du téléphone au volant dans les 7 départements qui ont mis en place la mesure. Le téléphone serait la cause de près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière. On y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis plus qu'un jour avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde. Rendez-vous à 21h demain soir sur RMC pour France-Sénégal. Fabrice Hawkins, la question maintenant, c'est quelle équipe va aligner Didier Deschamps?
Le staff de l'équipe de France doit composer avec un cas particulier pendant cette Coupe du Monde. William Saliba, le défenseur central, a une gêne au dos qu'il traîne depuis 2 mois. Depuis le début de la préparation, le champion d'Angleterre a un programme spécifique. Il ne fait pas tous les exercices avec ses partenaires. Didier Deschamps veut le gérer au mieux pour qu'il puisse être à 100% demain contre le Sénégal. Et sauf problème de dernière minute, il va débuter en défense centrale avec Dayot Upamecano. Dans la continuité de ce que les Bleus préparent depuis le début de la saison, Didier Deschamps va aligner 4 offensifs. Le capitaine Kylian Mbappé, évidemment, mais aussi Michael Olise et bien sûr le ballon d'or Ousmane Dembélé. La dernière place devrait revenir à Désiré Doué plutôt qu'à Bradley Barcola. Très performant contre l'Irlande du Nord lundi, Doué a confirmé qu'il pouvait être déterminant dans cette équipe.
Et cette nuit, la Suède a vaincu la Tunisie 5-1. Victoire aussi de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur 1-0. Sans surprise, l'Allemagne a gagné contre le Curaçao 7-1. Les Pays-Bas n'ont pas réussi à venir à bout du Japon de partout. Du rugby aussi hier, le Stade français a écrasé La Rochelle 45-5 et décroche son ticket pour les demi-finales du Top 14. Le Stade affrontera Montpellier samedi prochain.
C'était le journal de Solène Gardré. Il est 7h08 sur RMC. Il fait chaud. Et c'est le début du bac, début ce matin des épreuves avec les lycéens qui vont devoir passer des épreuves sous des températures qui vont parfois dépasser les 30 degrés cette semaine. Bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que toutes les épreuves se dérouleraient désormais le matin. Enfin toutes, mais pas totalement toutes, c'est ce que vous nous direz dans un instant. Et puis surtout, vous trouvez que tout ça c'est assez bricolé. Stop aux rustines, votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends bien sûr au 32-16. Vous êtes professeur, vous êtes parents, dites-nous comment ça se passe chez vous, dites-nous si vous avez trouvé des solutions et puis si vous estimez que cette décision du ministre vous semble à la hauteur. Je vous attends au 32-16.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, donc dans 3 quarts d'heure maintenant. L'épreuve de philo, l'épreuve, la première, le coup d'envoi du bac qui commence et dans une chaleur très très importante. Bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU et juste avant d'aller justement surveiller les épreuves de philo, vous êtes dans le studio d'RMC. Le pays s'apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur. Le baccalauréat débute donc aujourd'hui. C'est avec évidemment beaucoup beaucoup de chaleur. Et un ministre de l'Éducation nationale qui semble avoir sorti de son chapeau la solution miracle, supprimer les épreuves l'après-midi. Il y en avait déjà pas beaucoup, faut être honnête.
Oui, en fait, il nous sort de son chapeau une solution qui existe déjà, puisque cette année, les épreuves de spécialité du baccalauréat général ont toutes lieu le matin, que pour le brevet, on est désormais sur 3 jours et plus seulement sur 2 jours, notamment à notre demande pour placer l'essentiel des épreuves le matin. Il reste une épreuve en début d'après-midi. C'est vrai que l'annonce qu'il fait, ça vaudra surtout pour l'an prochain pour le bac pro, parce qu'on se souvient qu'il y a 15 jours, les élèves du bac pro ont passé leurs épreuves en plein après-midi sous une chaleur accablante. Mais reste un angle mort dans les annonces du ministre, c'est la question des oraux, l'oral de français et le grand oral qui se déroulent sur l'ensemble de la journée.
Qui, eux, effectivement, peuvent tomber absolument à n'importe quelle heure de l'après-midi. Pour vous, c'est des rustines. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que tout ça, c'est un peu bricolé.
Oui, c'est encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage. On sait qu'on bricole pour trouver des remplaçants et on sait aussi qu'on bricole face à la canicule. C'est-à-dire que là, on a un ministre qui, 3 jours avant, se dit, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait mettre les épreuves que le matin. C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Il faut enfin mettre à niveau notre bâti scolaire pour faire face à des épisodes de réchauffement climatique qu'on connaît. Je veux dire, on est quand même la 7e puissance économique du monde. À un moment, on va arrêter de se dire que la solution, c'est de donner une casquette aux élèves, de faire en sorte qu'ils viennent avec une gourde ou de les arroser avec de l'eau dans la cour.
Ça ne suffit pas, tout ça c'est bricolé, mais concrètement, est-ce que les moyens sont mis en œuvre ? J'ai l'impression que chaque année, on nous parle de la question du bâti, chaque année, on nous parle de ces bouilloires thermiques que sont un certain nombre d'établissements scolaires. Est-ce que les choses avancent quand même ?
Les choses n'avancent pas, en tout cas pas assez vite, notamment parce qu'il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que pour faire la rénovation thermique des écoles, des collèges et des lycées, il faut entre 4 et 5 milliards par an pendant 10 ans. Le fonds vert, sur le budget 2026, il a été coupé, il a été passé à 800 millions d'euros, alors qu'il était au-dessus de 1 milliard d'euros les années précédentes. Donc le signal est très clair, le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à affaires de la rénovation du bâti scolaire. Il n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire, est-ce que collectivement, on accepte que des
au-delà de la question des jours d'examen, vous voulez dire?
Oui, c'est-à-dire que au-delà de la question des jours d'examen, on sait très bien qu'on va avoir des périodes de forte chaleur de plus en plus tôt, de plus en plus longues. Il faut pas oublier aussi que parfois l'hiver, on a très froid, et ça veut dire que collectivement, le gouvernement et notre société acceptent que on fasse cours dans ces conditions-là. Ce n'est pas acceptable.
En attendant, malgré tout, le fait de concentrer les examens le matin, ça vous paraît quand même une bonne chose, si toutefois on intégrait aussi la question des oraux?
Oui, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on l'a demandé, ça fait plusieurs années, à chaque fois qu'on travaille le calendrier des examens, on demande à ce que les épreuves soient le matin, vu l'état du réchauffement climatique. Donc ça, les choses avancent. On va travailler aussi sur la question des oraux, mais ça ne sera pas suffisant. Face au réchauffement climatique, on peut pas poser des petites rustines chaque année, deux jours avant le réchauffement, avant les épreuves.
Stéphanie est en direct avec nous, professeure des écoles en Saône-et-Loire. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Comment ça se passe chez vous?
Oh ben chez nous ça se passe comme partout, avec des températures qui montent, et des bâtiments qui sont anciens, qui auraient besoin d'être rénovés, mais comme partout l'argent n'est pas là, et puis on a chaud.
Vous souffrez, les élèves souffrent?
Oh ben oui, les pauvres loulous, les après-midi principalement. Quand on leur demande de travailler un peu, le cerveau a du mal à réagir, quoi. Ça a du mal à réagir, ils sont un petit peu amorphes. Nous, c'est pareil. On travaille. L'année dernière, je me souviens, on arrivait le matin à 8h, j'avais 38 dans ma classe.
Ah oui, c'est énorme.
Bon, alors après, voilà, on adapte, on reste un petit peu plus longtemps dehors, on vaporise un peu les enfants, et puis voilà, on essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux, quoi.
Et vous, dans l'école, il n'y a pas de solution miracle? On vous a pas débloqué des moyens, je sais pas, pour des stores, des rideaux, de la clim?
Alors, on a des stores, mais on a des stores qui n'occultent pas grand chose. Et puis, des grandes surfaces vitrées, donc ce qui fait que ça chauffe très très vite. On est orienté de tout le matin au soleil. Puis non, et les communes n'ont pas suffisamment d'argent pour. En plus, on est une petite commune avec pas mal d'écoles, et il y a des budgets. Il faudrait des budgets colossaux. Donc non, on n'a pas tout ça. On n'a pas de ventilateur. Ou alors on emmène les nôtres, quoi.
Oui, c'est
on
ça. C'est chacun. Chacun fait par ses propres moyens. Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage. Bonne journée, Stéphanie, et l'accueil des élèves. Donc j'imagine dans peu de temps. Merci Sophie Vénédité d'être venue défendre votre parti pris, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU. Je vous laisse filer pour aller justement accueillir les élèves, les futurs bacheliers qui passent donc l'épreuve de philo à partir de 8h. Il est 7h18, il a eu son bac. Arthur Chevalier est avec nous. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien du matin. Il va beaucoup être question de la Corse à l'Assemblée nationale. Depuis quand est-ce que la Corse est française?
1768, donc il y a plus de 250 ans. Et au début, entre la France et la Corse, c'était pas l'amour fou, puisqu'il y a même eu des affrontements armés quand la France est arrivée.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demange arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas. 7h18, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h19 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Chaque matin, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, la Corse va-t-elle obtenir son autonomie? C'est ce qui se joue à partir de demain à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur un renforcement de l'autonomie de l'île va être débattu.
Et ça risque d'être musclé, puisque le but de cette loi, c'est d'octroyer donc une autonomie à la Corse. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que certaines lois et certains règlements qui s'appliquent partout en France ne s'appliqueraient plus là-bas en Corse. Donc il y aurait des sortes d'exceptions en fonction des spécificités de l'île. Dans un entretien au journal La Tribune dimanche, hier, le maire de Bastia, Gilles Simeoni, qui donc soutient l'autonomie, a prévenu, je cite, « si le Parlement nous ferme la porte au nez ou s'il nous envoie un signal négatif, ça sera lourd de conséquences ».
Lourd de conséquences, trois petits points. Comment la Corse est devenue française d'abord, Arthur?
Alors, à l'origine, la Corse appartenait à la ville de Gênes, qui est en Italie. Au XVIIIe siècle, Gênes, c'était un empire très puissant, sauf que Gênes devait beaucoup d'argent à la France et elle ne parvenait pas à nous rembourser. Comment faire? Eh bien, on a trouvé une solution. Plutôt que de rendre l'argent, Gênes nous a donné la Corse. Donc, en 1768, l'île de Beauté devient française. Ce qui est en fait assez récent, parce que pour vous donner une idée, quand la Corse a été rattachée, la Martinique et la Guadeloupe étaient déjà françaises depuis plus d'un siècle.
Les Corses, ils étaient d'accord pour devenir français?
Alors, dans un premier temps, pas du tout, il faut bien le dire quand même. Et justement, le problème, c'est qu'on ne leur avait pas demandé leur avis. C'est ça qu'ils ont mal pris. Et donc, quand la France arrive, elle est plutôt très mal accueillie. Et les Corses vont résister militairement. Il va même y avoir une bataille entre les forces françaises et les patriotes corses. Cette bataille, c'est la bataille de Ponte Novo. Elle a lieu en 1769 et ce sont les Français qui vont la remporter.
Est-ce que les relations vont ensuite s'apaiser entre Corses et Français ?
Oui, ça va s'apaiser. La France a rapidement dépensé beaucoup d'argent dans l'île. Elle a apporté une administration, des infrastructures. Les petits Corses avaient même droit à des bourses de l'État pour aller étudier sur le continent. Certains de ces boursiers feront d'ailleurs des carrières extraordinaires. L'un d'entre eux, c'était le jeune Napoléon Bonaparte.
Ah bah tiens,
voilà.
Ça c'est étonnant.
Il venait d'Ajaccio et il a fait ses études militaires sur le continent grâce à une bourse de l'État français.
Les Corses vont finalement déclarer leur amour à la France. Bon, enfin, à cette époque-là, quoi.
Oui, c'est en 1789. 1789, c'est évidemment l'année de la Révolution française. Donc, c'est un nouveau régime politique. On crée la première Assemblée nationale. Et ce sont les députés de Corse à l'Assemblée qui vont demander qu'on reconnaisse la Corse comme française. Ce qui sera fait. Depuis, la Corse est donc française à la demande des Corses. En 1982, l'île a d'ailleurs obtenu un statut particulier. Ce statut lui permettait notamment d'avoir sa propre assemblée régionale, l'Assemblée de Corse. C'était une première en France. Le projet de loi actuel renforcerait donc cette autonomie.
Et l'histoire qui donc évolue cette semaine. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Mon invité à 8h30, ce sera Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle.
Eh ben oui, Apolline, puisque ça y est, la présidentielle commence. Donc vous recevez un des candidats. À partir d'aujourd'hui, il y en aura un par jour jusqu'à l'élection.
Oui.
Vu qu'il y en a actuellement 1427
voilà.
Des candidats. Tiens, on va jouer un petit jeu pour démarrer la journée. Je vous donne des noms de candidats à la présidentielle et au milieu, j'ai glissé mon charcutier, ma charcutière. À vous de trouver l'intrus parmi Benjamin Lucas, Anas Kazib, Dominique Charles ou Lydie Massard. Alors, lequel...
Qui n'est pas candidat ?
Lequel Lydie ne sera Massard pas président, hein ? Eh ben non, Lydie Massard, elle est candidate.
Et candidate,
elle est candidate, c'est Dominique Charles, mon boucher.
Ah,
on l'embrasse.
Bon, le salut.
Donc, vous voyez, c'est pas facile. Hein.
Ah, non,
ce matin, c'est Gabriel Attal. Apo, faudra vraiment le libérer à 8h55, il a bac philo. Juste
ah oui,
le passer. Faites-lui réviser, tiens. Gabriel Attal, bonjour. Alors, choisissez un de ces trois sujets. L'échec est-il un mal en soi ? Peut-on apprendre par l'échec ? Ou le progrès humain est-il bâti sur les échecs ? Mais Madame de Malherbe, pourquoi que des sujets sur l'échec ? Devine ! Alors, Attal, 38 ans, Bardella, 31 ans, cette présidentielle, ça va être l'école des fans.
Bonjour mon grand, comment tu t'appelles ?
Gabriel.
Et tu veux faire quoi dans la vie, Gabriel ?
Président de la République.
Les enfants sont formidables. C'est ton papa et ta mamie dans le public avec le caméscope ?
Non, c'est Emmanuel et Brigitte, c'est des amis. Alors Gabriel Attal, il va se...
Je l'ai eu en...
Ah oui, en deuxième temps, en deuxième rideau. Gilette de lame. Alors, Gabriel Attal, on disait, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie ? Eh ben, il veut instaurer le fichage des pédocriminels. Alors, voilà. Ça existe déjà, ça s'appelle le classement des personnalités préférées des Français, JDD 95. Il y a l'abbé Pierre, PPDA, Bruel, Nicolas Hulot, le commandant Cousteau. Alors, je sais que Cousteau, il a rien fait officiellement. Il a vécu parmi les macros, il a caressé des raies. À mon avis, il est dedans. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Gabriel Attal, dans la vie ? Il a pour principal concurrent Raphaël Glucksmann. Voilà ce qu'il a. Parce qu'ils sont un peu sur le même électoral. Les deux. Moi, j'aimerais bien voir un débat Glucksmann-Attal.
Monsieur Glucksmann, hein.
Monsieur Attal, hein.
Je vais gagner, hein.
Non, c'est moi qui vais gagner. Hein.
Vous n'avez pas le monopole des bobos du 11e ?
Oui, mais moi, je suis soutenu par les véganes du 10e. Hein.
Et moi, par les étudiants en commerce du 6e. Hein.
Et moi, par les propriétaires d'une chaîne de street food qui fait du pâté végétal dans le 19e. Hein. Car nos régions ont du talent. La France a un incroyable talent.
Non, la France a un incroyable Attal. Hein.
Voilà, rendez-vous avec Gabriel Attal à 8h30. Ans. Et à tout à l'heure.
C'était un autre manche, mesdames, messieurs.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et vous l'entendez, c'est le moment de jouer. Ouais. Ça, c'est tous les zéros. C'est tous les zéros qui...
Les buts du week-end.
Ils s'enchaînent, c'est tous les buts du week-end. Parce que, vous le savez, on joue et on gagne. C'est la prime de match sur RMC. On avait commencé, souvenez-vous, avec 30 000 euros. Et on rajoute 500 euros à chaque but marqué depuis le début de la Coupe du Monde. Avec les matchs de cette nuit, on est à 49 000 euros. 49 000 euros au moment où on se parle. Retenez bien le montant de cette prime. Parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si quand on vous appelle, vous donnez le montant de la prime, et bien vous repartez avec. Envoyez dès maintenant but au 732-16. But au 732-16 pour vous inscrire. Vous avez 10 minutes. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h26. On se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal. Juste après. Après 3 mois et demi de guerre, eh bien enfin un accord cette nuit entre l'Iran et les États-Unis. L'annonce a été faite par Donald Trump lui-même et par les Iraniens. Fin des combats, ouverture du détroit d'Hormuz. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous? On fera le point avec le général Jérôme Pédis-Randy qui sera mon invité à 7h40. À 7h50, la voix de droite sur RMC parce que c'est lundi. Eh bien Louis Sarkozy reviendra sur l'un des événements de cette nuit, la soirée MMA à la Maison-Blanche pour l'anniversaire de Donald Trump. Le MMA est le plus beau sport du monde. Voilà le parti pris ce matin de Louis Sarkozy, la voix de droite. Il est 7h27, à tout de suite. Il est 7h29, dans un instant le journal, mais d'abord la météo. Géraldine a mis sa chemise jaune et en effet c'est parfaitement d'actualité, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui.
Beaucoup de soleil et il va y avoir de plus en plus de chaleur. Déjà les températures qui ont bien grimpé sur le sud-ouest hein, cette nuit avec les 20 degrés qui ont déjà été dépassés. Cet après-midi on devrait atteindre les 35 à Perpignan, à Montpellier, 34 à Bordeaux. Il va faire 33 degrés à Nantes, à La Rochelle ou à Toulouse, 30 à Lyon, à Paris, 28 à Marseille, 25 à Reims, Nancy, Nice ou encore 21 à Lille. Avec oui, beaucoup de soleil, on a quand même quelques grisailles. Parfois près des côtes en Bretagne, les côtes aquitaines et méditerranéennes. Et puis à noter donc que ces températures qui vont vraiment s'envoler dans les prochains jours. À partir de mercredi, on devrait vraiment parler de canicule avec des vigilances oranges hein, qui vont commencer à arriver. On sera entre 32 et 36 degrés quasiment sur tout le pays. Pour jeudi, on devrait atteindre les 38 degrés à Bordeaux, 37 à Lyon, 36 à Paris. Et donc ces fortes chaleurs qui devraient durer au moins jusqu'en début de semaine prochaine.
7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Accord annoncé et bientôt signé. Iran et États-Unis assurent mettre fin aux hostilités au moment même où l'équipe iranienne de foot a posé le pied sur le sol américain pour son entrée en lice à la Coupe du Monde. Nous serons en direct de Los Angeles dans un instant. Plus de 500 permis suspendus à ce jour. Premier bilan en exclusivité sur RMC des sanctions renforcées pour usage du téléphone au volant. Elles entrent en vigueur dès aujourd'hui dans un 8e département. Et puis les images folles du combat de MMA du français Cyril Gann, vainqueur cette nuit au beau milieu des jardins de la Maison-Blanche.
L'Iran et les États-Unis annoncent un accord de paix.
Qui ne sera signé que vendredi à Genève, mais déjà chaque camp crie victoire. L'armée iranienne assure que c'est, je cite, une humiliation pour ses ennemis, qu'ils sont contraints d'accepter leur défaite et que Téhéran n'a pas encore cédé sur son programme nucléaire. Ce n'est pas exactement ce que racontait le vice-président américain J.D. Vance hier soir à la chaîne Fox News.
Premièrement, c'est l'ouverture immédiate du détroit d'Hormuz et bien sûr la levée du blocus naval qu'on a imposé à l'Iran. Deuxièmement, cela signifie que l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire. Elle ne cherchera pas à s'en procurer une par quelque moyen que ce soit. C'est un élément fondamental de cet accord. Si les Iraniens respectent cet accord, le Moyen-Orient sera fondamentalement transformé pour les 50 prochaines années. La guerre prendra fin et le Moyen-Orient deviendra plus attractif pour les investissements.
Et réaction immédiate des marchés financiers. Le cours du pétrole a chuté moins 6,5% autour de 83 dollars le baril. On y reviendra avec Emmanuel Lechypre après le journal de 8 heures. Réaction diplomatique également. Le chef des Nations Unies salue une étape cruciale pendant qu'Emmanuel Macron dit attendre de voir les conséquences de cet accord, notamment sur la situation au Liban. Il en sera évidemment question à Evian qui reçoit dès aujourd'hui un sommet du G7 où Donald Trump est attendu en fin d'après-midi. Côté israélien, c'est pour l'instant le grand silence. Cet accord, il intervient en plein mondial de foot aux États-Unis et au moment où l'équipe iranienne est arrivée hier à Los Angeles. Son premier match, la nuit prochaine, 3h du matin contre la Nouvelle-Zélande. Nicolas Pelletier, vous êtes l'un des nombreux envoyés spéciaux de RMC en direct de la ville californienne. Et pour la première fois hier, la délégation iranienne a pris la parole. Nicolas Pelletier qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la matinale évidemment pour vous parler de cette délégation iranienne qui a pris la parole juste avant son match contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles au mondial de foot. Au programme aussi aujourd'hui dans ce mondial, l'entrée en lice de l'Espagne contre le Cap-Vert à 18h, celle de la Belgique contre l'Égypte à 21h, et puis je vous donne les derniers résultats de cette Coupe du Monde. La Suède a dominé cette nuit la Tunisie 5-1, les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul 2-2 et la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0. Il est 7h33 sur RMC. Suspension de permis pour usage du téléphone au volant. Un huitième département s'y met aujourd'hui. Il s'agit des Deux-Sèvres qui emboîtent le pas des Landes ou encore de la Charente-Maritime. Pierre Bourgès, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest, vous nous dévoilez en exclusivité un premier bilan de cette mesure. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus.
Oui, et je voudrais d'ailleurs vous présenter Claire. Ce matin, cette coach sportive landaise s'est fait arrêter par les gendarmes en janvier dernier. Elle avait son téléphone dans les mains alors qu'elle était au volant de sa petite berline grise. Résultat, 135 euros d'amende, 3 points en moins, et son permis a été suspendu 15 jours. Écoutez.
Si je dois être honnête, je me suis effondrée. J'en ris aujourd'hui, mais c'était, sur le moment, c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Et alors, on rappelle, c'est un drame, mais ça reste illégal. Et dans les Landes, eh bien, ce n'est pas la seule à s'être faite sanctionner, puisque depuis le 1er janvier, 400 permis ont été suspendus à cause du téléphone, selon la préfecture. C'est aussi 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne et 55 en Charente-Maritime. La Ligue contre la violence routière plaide pour une généralisation de cette sanction, d'autant qu'elle a un effet dissuasif dans les Landes et en Charente-Maritime. Par exemple, depuis la mise en place de cette mesure, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 20. 25%.
Pierre Bourgès pour RMC. On retourne à Los Angeles pour retrouver Nicolas Pelletier. Je vous en parlais à l'instant de cette équipe iranienne qui fait son entrée en lice à la Coupe du Monde de foot dans un contexte très particulier. Cette annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Nicolas Pelletier, je le disais donc, pour la première fois, la délégation iranienne a pris la parole hier.
Oui, après plus d'une heure et demie de contrôle par les services de l'immigration, le groupe iranien a pu fouler le sol américain et monter dans un bus siglé République islamique d'Iran. Tous les joueurs ont eu le précieux sésame, mais 11 membres du staff, dont le président de la fédération, ont dû rester de l'autre côté de la frontière à Tijuana au Mexique, faute de visa. Pour ses premiers pas à Los Angeles, le sélectionneur iranien Amir Galenoé a voulu apaiser la situation.
Je suis très heureux de représenter ma grande nation qu'est l'Iran. Je suis très content d'être là. Nous sommes ici pour jouer au football, nous respectons tous les Iraniens. Il faut séparer le foot et la politique.
Ce premier match face à la Nouvelle-Zélande inquiète fortement la FIFA, qui craint des messages politiques en tribune de la communauté iranienne de Los Angeles, fortement opposée au régime. La FIFA qui scrutera aussi des joueurs iraniens par crainte d'une action politique pendant les hymnes nationaux.
Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles pour RMC. Coup d'envoi de ce Iran-Nouvelle-Zélande. Ce sera à 3h du matin, à suivre évidemment sur la radio digitale 100% Coupe du Monde de RMC. L'ultime stress pour les élèves et les parents également. Début de l'épreuve de philosophie du bac dans moins d'une demi-heure. Désormais, 530 000 terminales technologiques et générales vont plancher cette année sous une chaleur qui revient dès aujourd'hui. Et puis du MMA à la Maison Blanche. Y a-t-il plus américain que cet événement, ces combats, cette nuit? Y a-t-il plus Donald Trump que ce cadeau que s'est offert le président des États-Unis pour son anniversaire? Morgan Maury, vous avez commenté, vous avez tout suivi pour RMC cette nuit, et un Français a brillé, c'est Cyril Gane.
Oui, un Français, maître du monde au siège du pouvoir américain, le natif de La Roche-sur-Yon, Cyril Gane, un enchaînement gauche, droite, gauche pour terrasser le Brésilien Alex Pereira dans ce combat poids lourd à l'UFC, la plus prestigieuse des organisations de MMA, les arts martiaux mixte. Cyril Gane a eu droit à quelques mots et une félicitation de Donald Trump, présent au bord de l'octogone. Par intérim, ça a son importance. Champion du monde par intérim, un mot qui a son importance pour Cyril Gane. Le vrai champion, c'est le Britannique Tom Aspinall, mais il est en bisbille avec l'organisation, avec l'UFC, à cause d'une blessure à l'œil contractée lors d'un précédent combat face à Cyril Gane. Il n'est pas certain de recombattre et l'organisation pourrait le destituer. Et alors, ce serait la promotion en tant que champion du monde régulier pour Cyril Gane. Ce serait la première fois qu'un Français devient champion du monde de l'UFC, champion du monde de MMA dans la plus prestigieuse des organisations. Il faut patienter pour Cyril Gane, qui a donné rendez-vous au 5 septembre date d'une soirée en France, à Bercy.
Toutes les explications signées Morgane Maury pour RMC.
Et Morgane ne manquait pas tout à l'heure à 7h50, la voix de droite sur RMC, Louis Sarkozy, qui ce matin déclarera sa flamme au MMA, à ses yeux le plus beau sport du monde. Il est 7h37, le quintet, ça se passe sur l'hippodrome de Longchamp.
Ah oui, départ à 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le 10, Stangeli, son outsider, le numéro 13, El Pequeño, le 10 et le 13.
C'était le journal de Victor Pourchet, 7h38. Tiens, dans votre journal, vous le disiez, Victor, ces permis qui, pour certains, sont suspendus pour cause de téléphone au volant. Et il y a Stéphane qui voulait réagir depuis l'Isère. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est bien de suspendre carrément jusqu'à 15 jours de suspension de permis,
voire plus,
si vraiment on est chopé, j'allais dire, avec le téléphone au volant?
Bah, de toute façon, on est face à un changement d'habitude de conduite. Je réagissais vis-à-vis des boîtes automatiques. Aujourd'hui, on a 75 à 80% des immatriculations de voitures neuves qui sont en boîte automatique. Il y a à peu près un tiers du parc véhicule circulant qui est à boîte automatique, ce qui laisse la main droite de libre. Forcément, il faut l'occuper dans la voiture. Et moi, je le vois de plus en plus. Il y a une main sur le volant et puis le téléphone dans l'autre main, pas forcément pour
moi, j'ai un souvenir du permis de conduire. On devait avoir les deux mains sur le volant.
Ouais, on devait avoir les deux mains sur le volant, normalement, au moment du permis.
Oui, sauf qu'à cette époque-là, on avait des boîtes manuelles. Et aujourd'hui,
mais ça vous choque, Stéphane, ou au contraire, vous vous dites, de toute façon, il n'y a plus de boîte, donc...
Non, ça me choque pas. La technologie a évolué, il faut faire évoluer la réglementation en fonction.
Donc pour vous, on est à contre-temps?
Non, il faut accélérer les choses. Il faut que ça se répande sur tout le réseau et que les gens qui ont le téléphone dans la main, ils se fassent allumer, quoi. Voilà. Moi, j'ai que des boîtes manuelles, le téléphone, je peux pas. Je joue première, deuxième, troisième toute la journée. Je peux pas l'avoir dans la main droite. C'est pas possible.
Bon, et donc, tant mieux, effectivement, parce qu'il faut faire gaffe. Les chiffres, ils sont très importants. Il y a eu 500 permis qui ont été suspendus.
500 permis suspendus depuis le début du mois de janvier. Ce sont les Landes, qui ont lancé ce mouvement. 8 départements, désormais. Rappelons que le téléphone est mis en cause dans près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière.
Merci Stéphane, 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors, est-ce que ça y est, la guerre est finie? Soulagement après l'annonce d'un accord entre Iran et États-Unis. Du côté du baril de brut, d'ailleurs, c'est immédiatement descendu. Les bourses asiatiques en forte hausse, le pétrole en baisse. Bonjour, général Jérôme Pellistrandi.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et vous allez nous éclairer ce matin. Que contient cet accord? Y a-t-il un gagnant? Y a-t-il un perdant? Quelles conséquences pour nous en France? Vous nous expliquez tout sur RMC dans un instant, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à tous, 7h44 sur RMC. Après 108 jours de guerre, accord cette nuit entre l'Iran et les États-Unis. Bonjour général Jérôme Pellistrandi.
Bonjour Apolline.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Un accord et la fin immédiate et définitive des opérations militaires entre l'Iran et les États-Unis, confirmé par les deux parties. Cet accord, il sera officiellement signé vendredi en Suisse, mais il a des conséquences immédiates avec la fin des combats. Qui a gagné?
Alors, si on est à Téhéran, pour Téhéran, c'est l'Iran qui a gagné. Et c'est vrai, ils ont tenu tête donc à la première puissance militaire au monde. Le régime a survécu malgré les frappes qui ont décimé la tête du régime au début. Donc, à Téhéran, oui, c'est nous qui avons gagné. Et à Washington, Donald Trump, il dit que c'est lui qui a gagné. C'est la plus grande victoire depuis tout le temps. En fait, on est dans une espèce de match nul. Ça va être très compliqué de voir les suites. En tout cas, chacun est content.
Au moment où on se parle, ça veut dire que la fin a été immédiate et définitive, dit-on, des opérations militaires entre l'Iran et les États-Unis. D'abord, qu'est-ce qu'il y a au moment où on se parle dans cet accord qui sera enrichi dans les 60 jours qui viennent?
Alors, c'est justement le problème, c'est qu'on ne connaît pas le texte de l'accord. On a, du côté de l'Iran, 14 points qui ont été exprimés, rapportés par une agence de presse officielle. Et du côté de Washington, on n'a pas le texte sur qu'est-ce qu'il y a dedans. La seule chose que l'on sait, c'est que en fait, il y aura une signature donc en Suisse vendredi, et que on va rentrer dans une phase de négociation de 60 jours pour rentrer en fait sur le fond du problème. Et puis, on a dit oui, arrêt des combats c'était déjà plus ou moins le cas entre l'Iran et les États-Unis, mais bien sûr, il reste la question essentielle du Liban, hein, où encore ce matin, il y a eu des frappes dans le sud du Liban, donc entre Israël et le Hezbollah.
Le Pakistan, qui est médiateur de ce conflit, affirme que cet arrêt des combats, c'est sur les différents fronts, y compris le Liban.
Et oui, or c'est bien ça la problématique, c'est que pour Israël, le Hezbollah constitue une menace existentielle et on voit bien aussi que le Hezbollah harcèle. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les heures et jours à venir? Est-ce que il va y avoir vraiment une cessation des hostilités au sud du Liban, avec chacun restant dans son coin? Bah, pour le moment, il va falloir attendre et observer.
Le détroit d'Ormuz, ouvert ou fermé?
Alors, si on écoute Donald Trump, il suffit que les bateaux, hop, redémarrent le moteur.
Il dit même, repréparez vos moteurs.
Oui. Alors ça, c'est
voilà, du Donald Trump.
C'est du Donald Trump, parce que ça va être beaucoup plus compliqué que cela. Il faut, bah, dans un premier temps, garantir la sécurité des bateaux. Aucun armateur ou aucun assureur, et encore moins les équipages, ne vont prendre le risque de passer dans un détroit où il y a peut-être des mines. Donc il y a toute une opération de déminage à envisager, et cela, il va falloir le faire avec la bonne volonté des Iraniens. Et là aussi, ça va être quelque chose qui va être compliqué à gérer. En tout cas, c'est pas dans une demi-heure que les premiers bateaux vont pouvoir franchir la ligne de départ dans le détroit.
Quel rôle pour la France? Emmanuel Macron avait annoncé, en accord avec la Grande-Bretagne, une sorte de coalition pour sécuriser justement le détroit d'Ormuz. Quel peut être notre rôle?
Alors, le rôle de la France avec ses partenaires, notamment britanniques et de la coalition, peut être important justement pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Avec, dans un premier temps, le déminage, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est entre chercher une aiguille au milieu d'une botte de foin. Hein. L'espace maritime est grand, il va falloir le faire. Et là, les Français ont envoyé des capacités, les Britanniques de même, nos partenaires italiens. Et ça pourrait être, une fois l'accord signé, une phase qui pourrait être engagée très rapidement.
Vous nous disiez, Général Jérôme Pélisse-Randy, à l'instant, que chacun allait revendiquer la victoire. Il y a un signal, Donald Trump avait dit que cet accord interviendrait le jour de son anniversaire. C'était donc effectivement le cas, le jour de ses 80 ans. Est-ce que de ce point de vue-là, en effet, c'est un signe qu'il a obtenu ce qu'il voulait?
Alors, c'est un signe qu'il va pouvoir passer à autre chose. Alors, bien sûr, il y a le G7 qui s'ouvre dans quelques heures, donc à Évian, donc en France. Donc, il va pouvoir arriver en disant, voilà, j'ai réglé le problème. En fait, il a rien réglé. On est dans la même situation qu'au début de la guerre. Mais néanmoins, il va considérer que le dossier donc iranien, il est classé, il peut passer à autre chose. Et ça, pour lui, c'est important parce que, eh bien, il y a eu son 80e anniversaire, il y a les 250 ans des États-Unis. Et puis, n'oublions pas, au mois de novembre, il a quelques élections qui sont importantes pour lui.
Avec une question aussi qui sont les conséquences économiques mondiales. Et puis, les Iraniens eux-mêmes, on les oublie dans cette histoire. Quelles conséquences pour la population iranienne?
Alors, en fait, les perdants, c'est la population iranienne. Souvenez-vous, au mois de janvier, cette répression épouvantable, plus de 30 000 Iraniens qui ont été massacrés par le régime. Donc, un soulagement certainement pour les Iraniens, mais néanmoins, le fait que le régime a survécu. Le seul point positif, on va dire pour nous Français, c'est que le prix donc du carburant à la pompe devrait baisser quand même assez rapidement, et ça c'est quand même quelque chose qui est bon pour notre économie.
Merci beaucoup Général Jérôme Pélisse-Randy d'avoir fait le point ce matin avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Il est 7h49 et il a passé la nuit à regarder les matchs. Louis Sarkozy, la voix de droite, c'est lundi. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
On en parlait dans le journal de 7h30, nuit de MMA à Washington, à la Maison Blanche. Faire rentrer un sport très violent à la Maison Blanche, ça vous choque pas, vous?
Non, pas du tout. C'était d'ailleurs une belle manœuvre politique. Et vous dites violent, mais le MMA contient aussi la violence, la discipline, et la transforme en art.
La fameuse catharsis, vous allez nous en parler dans un instant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus. Mathieu, un rendez-vous parisien pour les fans d'Elton John.
Oui, alors pas un concert, pas cette fois. Une autre facette de l'artiste anglais qui s'expose à la galerie du Jeu de Paume. Les collections de photos d'Elton John que vous pourrez admirer, qu'il veut partager. Le chanteur collectionneur qui affirme posséder plus de 7000 œuvres, 300 sont exposées à Paris. 90 photographes internationaux, des photos d'art, portraits, photos de mode, photos reportages aussi, avec des clichés qui racontent la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, le 11 septembre, la guerre en Ukraine, à Gaza. La part belle aussi au combat pour les droits des homosexuels. 300 clichés qui seront affichés pour l'exposition fragile, beauté, donc désir, mode, célébrité, photojournalisme et question d'identité. Voilà pour le programme de cette expo, des tirages des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'était au musée du Jeu de Paume et c'est jusqu'à la fin de l'été, Elton John.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour,
cette
Apolline.
Nuit, la Maison Blanche a donc accueilli des combats de MMA. C'est une première dans l'histoire. Ça a de quoi choquer quand même l'esprit français. Mais vous, Louis, vous y voyez un acte politique.
Non seulement ça, mais sur le plan sportif, c'était magnifique. Une réussite totale, que j'ai d'ailleurs regardé toute la nuit, vous avez raison de le souligner, sur RMC Sport. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. C'est le sport de combat le plus complet qui existe. On y mélange tout, la boxe, la lutte, le jujitsu, le judo, le muay thai, pieds, poings, corps à corps, combat au sol, deux athlètes dans une cage, des règles précises et l'éventail entier des arts martiaux réunis en un seul affrontement. C'est ça, le MMA.
Et alors hier, c'était le summum.
Ah, le summum. C'était pour célébrer les 250 ans de l'Amérique et accessoirement les 80 ans du président Trump. Et pour Trump, justement, qui est aujourd'hui, il faut le dire, en grande difficulté politique, cette nuit a un sens bien précis.
Vous y voyez aussi une manœuvre politique trumpiste.
Tout chez lui, tout chez cet homme est politique. Rappelez-vous 2024, Trump perdait les jeunes depuis toujours. Et là, son fils Baron, seulement 18 ans, étudiant à New York, lui souffle une idée. Va faire campagne sur les podcasts. Le résultat, tout le monde le connaît, l'interview avec Joe Rogan, le plus grand podcast du monde, a dépassé 52 millions de vues sur YouTube. Chez les hommes de moins de 30 ans, Trump est passé de 41% en 2020 à 56% en 2024. C'est 15 points. C'est ce qu'on appelle le bro vote. Si l'idée vient vraiment d'un gamin de 18 ans, c'est un vrai coup de génie. Les démocrates, eux, étaient quasiment invisibles chez les jeunes. Alors hier soir, en ramenant le MMA chez lui, Trump rappelle à cet électorat « Je suis votre président ». Et il en a besoin parce que sa cote chez les jeunes cette année s'est effondrée.
Le bro vote comme brother, en gros mon frère quoi. Alors le MMA c'est quand même un sport très très américain.
Mais le MMA est aussi un immense sport français. La France est surreprésentée dans les organisations mondiales. Regardez la carte d'hier soir en co-main event. C'est un peu le deuxième événement de la soirée. Pour la ceinture intérimaire des lourds, le Vendéen Cyril Gane. Et sa sublime victoire, un Français d'un talent fou qui gagne un titre mondial sur la pelouse de la Maison Blanche. Et derrière lui, toute une génération. Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, Nassourdine Imamov, William Gomis. Même chez moi, figurez-vous, à Menton, une pépite, Alice Mikalkevitch, combattante professionnelle qui s'entraîne à l'Urban Sports Center et qui a déjà combattu au Zénith de Paris. De plus en plus de jeunes en France s'y mettent, de Paris à Menton,
bon,
partout.
C'est quand même un sport extrêmement violent, Louis.
Enfin, très violent. Regardez le football. Vous vous souvenez des violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions ? Voiture brûlée, vitrine explosée, blessée.
Alors, c'était pas tout à fait sur le terrain quand même.
Mais on est bien d'accord, mais où sont les violences aujourd'hui par exemple ? On ne voit jamais ça avec les supporters de MMA. Alors oui, c'est un sport violent, je serai le premier à le dire. Mais pas seulement, c'est aussi une discipline, une technicité, une profondeur intellectuelle et surtout un sport qui est et qui a une vraie beauté.
Parfois difficile à regarder, il faut quand même le dire. Ou alors c'est... peut-être que vous allez vous moquer de mes chastes yeux.
Pas du tout, j'ai eu la même conversation avec ma femme qui d'ailleurs maintenant est accro. C'est vrai que ça peut être un sport cruel, aux conséquences individuelles terribles, des membres brisés, des traumatismes cérébraux avérés. Ces femmes et ces hommes sont d'une bravoure exceptionnelle. Ce sont les véritables gladiateurs des temps modernes. Aucun sport ne lui est comparable, ni dans sa gravité, ni dans l'excitation qu'il provoque.
C'est pas pour tout le monde quand même.
Est-ce que vous en êtes si sûr, Apolline ? Descendez de chez vous demain matin, mesdames et messieurs les auditeurs. Si vous voyez des gamins jouer au foot ou au basket, vous ne vous arrêterez pas 5 secondes. Mais si deux jeunes se battent dans la rue, tout le monde s'arrête. Tout le monde regarde. L'être humain a une obsession de l'affrontement, du combat, de la violence. C'est dans nos gènes. Faut-il rappeler l'immensité des combats de gladiateurs dans l'Antiquité ? Au Moyen-Âge, on achetait sa place pour voir les exécutions publiques. Cette pulsion existe. Elle a toujours existé. Le MMA ne la nie pas. Il l'encadre. Il lui donne une règle, une discipline, une technicité. Il la transforme en art. Voilà pourquoi les organisations de MMA décollent partout, et particulièrement en France. Et voilà pourquoi, en tout cas pour moi, c'est le plus beau sport du monde.
Donc la violence contrôlée sur un terrain.
Discipline.
Et en l'occurrence dans une cage. Déclaration d'amour donc de Louis Sarkozy au MMA ce matin. Et je rappelle que la soirée MMA elle a été diffusée cette nuit effectivement sur la chaîne RMC Sport 1. Merci Louis. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une Donald Trump qui qui va donc arriver aujourd'hui en France. Il devrait décoller dans moins d'une demi-heure des États-Unis, direction Évian-le-Bain. Nous serons en direct sur place. Et puis dans un instant, la météo, Géraldine nous le dira. La semaine s'annonce extrêmement chaude. À tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.